petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières.
Bonjour à vous, chères oreilles buissonnières. Comment allez-vous? Dites-moi donc, au fait, puisque buissonnier vous êtes, pour aller à l'école, au marché, au football, au café, quel chemin vous empruntez? La route, l'autoroute, la départementale, la nationale? Ou peut-être un sentier ou un chemin escarpé, bordé de ronces et de rochers, de mousses et de genêts, d'insectes et de forêts? Tout droit ou de guingois, de vagues ou de zigzags, votre chemin est-il un sillon de béton ou une aventure en nature? Mais, d'ailleurs, qu'est-ce que la nature? C'est Daniel Petit, biogéographe, qui nous fera l'honneur de répondre à cette question, épineuse bien sûr. Alors, qu'est-ce que la nature?
La nature, c'est les arbres et les animaux.
Des animaux sauvages qui sont en forêt.
C'est comme nous, les humains, ou les animaux, ou le ciel bleu.
C'est la vie.
Des arbres qui font de l'oxygène pour qu'on vive.
La nature, c'est tout ce qui a fabriqué les animaux et tout ce qui nous a fabriqués.
C'est des arbres, des plantes, des rivières, tout ce qui n'a pas été fabriqué par l'homme.
Mais le pain, c'est fabriqué par l'homme, mais aussi ça a des produits naturels comme le blé.
Le pain, c'est entre les deux, les produits naturels et ce qui est fait par l'homme.
Ben, en fait, des fois, la nature et l'homme, ils s'assemblent pour faire des choses bien.
Ben, la maison de paille, c'est un peu naturel, et c'est de la nature et de l'homme, parce que la paille, c'est de la nature, mais l'homme, bah, il prend la paille pour en faire une maison. Et celle du bois, le bois, c'est naturel, mais quand on le coupe pour faire une maison, c'est l'homme, ça.
Toutes les matières sont de la nature, sauf la maison en ciment, mais pour que ça fasse une maison, c'est l'homme qui le fait.
La maison en ciment, c'est un petit peu la nature parce qu'on prend de la pierre pour faire les blocs et après le ciment, c'est des produits chimiques, mais aussi on met un tout petit peu des produits naturels.
Une tarte au poireau, c'est que l'humain, parce que c'est l'humain qui a cultivé le poireau et qui l'a ensuite fait.
C'est un petit peu plus la nature parce que y a le blé qui sert à la pâte et le poireau qu'on cultive.
Et aussi, si les hommes ils étaient pas là, les tartes aux poireaux, on pourrait pas les faire.
C'est gentil par ici.
La file des voitures et tu t'en vas tout droit, tout droit. C'est un billard, c'est une piste, pas un arbre, pas une fleur. Comme c'est beau, comme c'est triste, tu feras du 130 à l'heure. Mais moi ces routes goudronnées, toutes ces routes me dégoûtent. Si vous m'aimez, venez, venez, venez chanter, venez flâner. Et nous prendrons un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, en ce petit chemin, manque ni tête, on le voit qui fait trois petits tours dans le bois. Puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous, ils donnent leur fête. Les lapins nous invitent, souris moi, courons vite. Ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Les routes départementales où les vieux cantonniers sont rois ont l'air de ces horizontales qui m'ont toujours rempli d'effroi. Et leurs photos télégraphiques font un ombrage insuffisant pour les idylles poétiques et pour les rêves reposants. Ah bon, les routes rebattues, les tas de pierres, la poussière et l'herbe jaune des talus, les cantonniers, il n'en faut plus. Nous avons pris un raccourci, le petit chemin que voici. Ce petit chemin qui sent la noisette, en ce petit chemin m'a tourné la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés et puis sur ta figure toute barbouillée de mûres pour nous observer. Des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mes lièvres au passage nous a dit soyez sages, ne crains rien, prends ma main.
Cette voix sautillante et printanière, c'était Mireille, bien sûr, en 1933, avec son petit chemin. Alors, monsieur Daniel Petit, est-ce bien cela la nature, ce petit chemin-là, aux douces chansons d'insectes et aux petits goûts de noisettes ?
Bien, je pense que c'est peut-être un petit peu plus complexe de nos jours, maintenant.
Alors, nous avons entendu les enfants hésiter tout à l'heure sur ce que l'on entend par le mot de nature, un mot très employé d'ailleurs à tort et à travers, alors qu'il recèle de cachettes secrètes et de manières de voir très différentes. Alors, Daniel Petit, qu'est-ce vraiment que la nature ?
Eh bien, la nature, quand nous nous posons cette question de savoir qu'est-ce que la nature, en fait, on s'interroge sur un concept, sur une idée de nature. Et le mot nature en lui-même ne correspond pas à une réalité tangible. Ce qui est vraiment existe, ce sont les montagnes, les rivières, les roches, les plantes, des milieux où il y a des plantes et des animaux qui vivent. C'est ça la nature, c'est un ensemble de choses assez complexes. Donc pour répondre vraiment à cette question « qu'est-ce que la nature ?», on ne peut y répondre qu'en examinant les différentes réponses que les hommes eux-mêmes apportent à cette idée de nature, quelles idées en ont. Alors, très succinctement, on peut classer les réponses des gens entre deux grands ensembles de conceptions de la nature. Le premier ensemble, il correspond aux personnes qui conçoivent la nature comme un objet séparé des humains. Une nature composée d'éléments, vivants ou non vivants, hein. Le vivant c'est les animaux, le non vivant, bah, les roches, les montagnes, qui sont considérés donc extérieurs à l'homme. Ces personnes, elles font une nette différence entre ce qu'elles considèrent comme naturel, d'une part, et de l'autre côté séparé, tout ce qui est les hommes et leur production. Hein. Ils considèrent que c'est vraiment, il y a une frontière. Elles expliquent que l'humanité, à travers sa très très longue histoire, depuis les premiers hommes, s'est formée en s'arrachant d'un état naturel primitif, où la vie des hommes était une vie proche de la vie sauvage, qui était une vie dangereuse, sans défense, devant les intempéries, devant les bêtes féroces, devant les maladies, les tempêtes, la faim, etc. Et donc pour elles, ces personnes qui considèrent la nature comme ça, il est heureux que les hommes, avec le temps, avec leur histoire, après d'innombrables efforts, après beaucoup de travail, se soient détachés de l'état de nature, grâce à l'intelligence des hommes, grâce au développement de son intelligence, de ses capacités, l'invention de savoir-faire comme la chasse, l'agriculture, les industries, et la transmission aux générations suivantes de tous ces savoirs acquis à travers toute leur histoire. C'est ce qu'on appelle le transfert des connaissances aux générations qui suivent. Et souvent parmi les adeptes de cette conception, on parle d'une nature sauvage. On fait même une distinction entre la nature sauvage, vue comme dangereuse, hein, les animaux prédateurs, comme les loups, les tempêtes, les inondations, les avalanches, tout ça c'est une nature dangereuse qui amène des risques.
Et féroce.
Et féroce, voilà. Et une nature domestiquée, rendue beaucoup moins dangereuse, par le génie justement des hommes, par le savoir-faire, par leur intelligence, par aussi l'organisation des sociétés. Par exemple, les animaux d'élevage, comme les moutons, sont beaucoup moins dangereux que des animaux sauvages, comme les chiens sont moins dangereux que les loups, comme les fleuves endigués sont moins dangereux que les fleuves quand ils n'étaient pas endigués et qu'ils débordaient et provoquaient des inondations, comme les digues à la mer qui protègent les terres des invasions de la mer lorsqu'il y a des grandes tempêtes. Donc dans ce sens, pour ces gens-là, cette conception-là, la nature domestiquée, elle est entendue comme, elle est comprise comme une nature qui a été produite par l'homme, qui a été élaborée, transformée par les hommes, et donc qui est améliorée par les hommes. Donc si on reprend l'exemple des loups et des moutons, Ces personnes acceptent avec le grand débat qu'il y a entre les loups et les éleveurs de moutons actuellement. Donc les personnes qui conçoivent la nature comme cela, séparées de l'homme, considèrent, acceptent très bien que les loups se nourrissent d'animaux sauvages, mais ils n'acceptent pas qu'ils se nourrissent de moutons, puisqu'ils veulent une bonne séparation entre la nature sauvage et la nature domestiquée et les hommes. Et donc pour eux, il y a une frontière importante entre la nature sauvage et la nature domestiquée. Ainsi, il est justifié pour eux que les hommes, petit à petit, dans le travers de leur histoire, aient transformé la nature, l'aient dominée, qu'ils la s'agissent un peu pour obtenir une vie beaucoup plus confortable et une vie moins sujette à tous les aléas de la nature qui était en fait la vie primitive au départ de l'humanité.
D'accord.
Et même certains partisans alors, de cette conception un petit peu extrême, eux ne reconnaissent dans la nature qu'il n'y a pas de sensibilité, que les animaux n'ont pas de sensibilité finalement, pas trop d'intelligence, peu de sentiments, peu d'émotions. Bon, un peu, ils acceptent qu'on puisse concevoir que certains grands animaux supérieurs aient des émotions et des sentiments, hein, comme des chiens, comme les éléphants, comme des guépards par exemple, mais ils ne considèrent pas que le petit insecte ou un escargot puisse avoir des sentiments, une intelligence et une émotion. Donc ils font bien une différence entre le monde animal qui lui est dépourvu un peu d'intelligence et souvent et les animaux supérieurs, comme l'homme qui lui a une intelligence bien supérieure aux animaux. Et d'ailleurs, leur argument classique qu'ils lancent, c'est qu'on n'a jamais vu dans la nature des animaux concevoir et fabriquer des machines. Et ils disent qu'on n'a jamais vu non plus d'animaux concevoir des symphonies ou des concertos. Donc il y a bien une différence entre les hommes et la nature.
Alors d'accord, on comprend que l'homme a mis des millénaires à s'arracher des aléas de la condition de nature primitive. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas allé un peu trop loin quand même? Quand on voit toutes les catastrophes qui arrivent à cause des actions des hommes, l'épuisement des ressources naturelles, par exemple le poisson en mer, la pollution des sols, les forêts, est-ce que finalement il n'est pas temps d'avoir une autre conception de la nature, une autre attitude, en tout cas dans nos rapports avec elle?
Ben oui, c'est effectivement ce constat qui est à l'origine de l'autre conception. J'avais parlé d'une première conception, donc était la nature vue comme un objet. Et là, dans une autre conception plus moderne, plus récente, mais pas si moderne que ça, parce qu'elle date un peu du XVIIIe siècle, même chez les Grecs, elle avait aussi, qui considère la nature comme sujet, comme presque égale à l'homme, hein, comme la place au même niveau. L'homme, pour ces gens-là, fait partie de la nature. Il est né dans la nature, donc il souligne que l'homme ne peut pas se séparer de la nature, il ne peut pas vivre sans la nature, il ne peut s'en défaire.
Donc il n'est plus au-dessus, il n'est plus supérieur, comme dans la vision de tout à l'heure.
Tout à fait, voilà. Cette conception-là tend à remettre à égalité tout l'ensemble de la nature, tout l'ensemble des animaux avec l'humanité. Et pour les tenants de cette conception, par exemple, les grandes catastrophes naturelles, les tempêtes, tout ce qu'on considère comme la nature féroce et dangereuse, ben finalement, ils considèrent que ce sont les hommes, en faisant des aménagements par leur haute technicité, provoquent finalement ces inondations.
Ah, si on n'avait pas, voilà,
si on n'avait pas endigué les fleuves, ben ils prendraient, on n'aurait pas construit à côté, donc il n'y aurait pas de danger. Et donc c'est ainsi que ces gens-là disent, mais c'est les hommes, par leur technicité, qui font finalement le danger. Et que finalement, si on regarde bien, malgré la haute technicité des gens, malgré le progrès scientifique et technique, ben finalement on est toujours incapable de dominer totalement la nature. On a beau faire des digues, mais ça déborde toujours.
En effet.
Donc pour les plus radicaux de cette posture, la nature sauvage, finalement, ils considèrent qu'elle est beaucoup moins dangereuse, finalement, que la nature domestiquée. Et souvent, comme donné comme exemple, c'est la nourriture. Ils considèrent que la nourriture sauvage, c'est-à-dire que les fruits moins travaillés, moins cultivés avec des produits chimiques, finalement, sont moins dangereux et que cette nourriture est beaucoup plus saine que la nourriture cultivée qui, elle, est remplie de produits chimiques. Une récente étude, d'ailleurs, a démontré que dans notre alimentation quotidienne, chaque jour, on ingère plus d'une centaine de produits chimiques.
Une centaine de produits chimiques ?
Oui, 128 même. Donc, ces gens-là qui tentent à remettre la nature au niveau de l'homme en disant, mais finalement, les produits naturels sont moins dangereux que les produits fabriqués par l'homme.
Il y a du bon aussi dans le naturel.
Voilà, c'est ça. Et pour ces gens-là, les animaux élevés dans des conditions proches de la nature seraient beaucoup plus sains. Et ils argumentent en disant aussi que les animaux élevés plus proches de la nature, moins dans des élevages de type industriel, si on peut dire, souffrent moins, donc sont plus heureux, donc sont plus sains. Et donc ils reconnaissent à la nature, dans la nature, des sentiments, des émotions. aux animaux, vous comprenez ?
Pas comme tout à l'heure.
Pas comme tout à l'heure, pas comme les autres. Et donc, ils considèrent que tous ces animaux ont des émotions, sont des êtres vivants, sensibles, et qu'il donc faut faire attention et les protéger. Pour eux, donc, l'homme est un élément de la nature parmi tant d'autres, qu'elle ne lui est pas extérieure, que l'homme fait partie de la nature, qu'il est dans la nature, et qui donc, comme il est dans la nature, il est avec les autres de la nature, il doit protéger ceux qui sont autour de lui.
Un animal comme les autres.
Voilà, et donc si on reprend l'exemple du loup et des moutons de tout à l'heure, ben, ces gens-là, ils vont accepter que le loup, par exemple, mange quelques moutons, parce que c'est l'homme qui a détruit la nature, et qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'alimentation sauvage pour les loups. Donc ils considèrent que c'est l'homme qui a fait du tort au loup, puisqu'il lui a retiré son alimentation d'animaux sauvages, puisqu'il les a en grande partie détruits les populations ont beaucoup diminué, et qu'il n'y a plus, par exemple, de castors, qu'il n'y a plus suffisamment de castors, suffisamment de jeunes mouflons, suffisamment de lapins, suffisamment d'écureuils, suffisamment de grenouilles, etc., qui étaient les aliments traditionnels des loups. Et donc, c'est normal que les loups se retournent sur les animaux élevés par l'homme. Donc, ils ont une compréhension que le loup s'attaque aux moutons. Voilà.
Finalement, à vous entendre, nous avons des points de vue très opposés. Alors, comment peut-on dépasser cette situation qui parfois tourne à une sorte de guerre de tranchées sur le front de la protection de la nature ?
Ben oui, en effet, la situation semble souvent bloquée et souvent on trouve dans la presse, la radio, des informations où on voit les tenants d'une nature séparée de l'homme, que la nature, chacun chez soi, les hommes et dans leur milieu et la nature restée dans les zones un peu isolées. Gagne une bataille, si vous voulez, une manche, et puis les autres, un autre jour, c'est l'inverse, c'est les tenants d'une protection de la nature qui gagnent une bataille. Donc les uns accusent effectivement un abus de donner des droits et des valeurs à la nature, ils considèrent que la nature a des valeurs, on peut donner des valeurs que par rapport à l'usage que l'homme fait de la nature. C'est un peu une élucubration intellectuelle de vouloir donner un usage à la nature en dehors de l'homme. Et puis les autres, au contraire, disent « Ben non, nous, les hommes, on a besoin de la nature, on est en train de la détruire, et donc on ne peut vivre sans elle, et il faut absolument la protéger. » Donc effectivement, il y a deux tendances qui un peu s'opposent assez souvent.
Oui, c'est la guerre, presque.
C'est presque une guerre, souvent, oui, c'est vrai. Alors, le problème, c'est, dans cette question qui était l'origine des enfants, là, qu'est-ce que la nature ? C'est quand même de se poser la question, moi je me pose la question, c'est quoi la nature aujourd'hui ? Est-ce que c'est la même qu'ont connu nos parents, nos arrière-grands-parents, et puis en remontant en arrière encore, est-ce que c'est la même au XVIIIe siècle, au Moyen-Âge, du temps des Grecs, des Romains, etc. Et on est bien obligé de reconnaître que, certes, non, la nature n'est plus tout à fait celle qu'il y avait il y a quelques milliers d'années, lorsque, par exemple, les premiers hommes sont apparus sur la Terre.
Bien sûr.
La nature a complètement évolué, elle a changé. Alors elle a changé de deux façons, si vous voulez. D'abord, la nature évolue elle par elle-même. C'est-à-dire que selon les principes de transformation, selon les principes de l'évolution, de découverte par Darwin et Lamarck, la nature, le vivant, évolue. Les animaux de maintenant ne sont pas les mêmes qu'avant.
Nous n'avons plus de dinosaures, par exemple.
On n'a plus de dinosaures, voilà, par exemple. Et même les animaux sont toujours en train d'évoluer, tout est en train d'évoluer. Et puis le climat évolue. On parle de changement climatique, mais
ça,
le climat
c'est sûr. A évolué. On est bien au courant.
Voilà, mais il a changé depuis tout le temps, il a tout le temps changé, quoi. Le climat d'aujourd'hui n'est pas tout le même qu'il y avait lorsqu'il y avait les premiers hommes, lorsqu'il y avait les hommes de Néandertal qui vivaient dans des grottes, par exemple. Il était beaucoup plus froid. Et puis les montagnes changent, les collines évoluent, les planètes, les plaques tectoniques bougent, les montagnes grandissent, sont érodées. Donc la nature, elle est changeante par elle-même. Donc on ne peut pas parler d'une nature d'aujourd'hui et la comparer avec la nature d'il y a un siècle, deux siècles, trois siècles. Elle change et elle changera encore par elle-même.
C'est une erreur donc de comparer avec une nature originelle, avec un grand O.
Voilà, qui fait que changer tout le temps,
bien
qui
sûr.
Vit aussi bien les choses vivantes que les choses non vivantes. Hein. Et puis l'homme a transformé la nature depuis longtemps, depuis disons les Grecs, les Romains, l'homme a transformé lui-même la nature, et encore plus depuis les temps contemporains. Donc les sociétés humaines ont marqué les paysages, on a raboté des collines, on a endigué des fleuves, on a changé de cours d'eau pour les fleuves, etc. On a asséché des marais, on a consolidé des côtes maritimes pour se protéger de la mer. Donc cette nature, elle a été changée. Et puis plus récemment, on a introduit des espèces animales dans des pays où il n'y en avait pas. On a introduit des espèces végétales dans des pays où on n'y avait pas. Tout ce qu'on mange...
La tomate, par exemple, me semble-t-il.
Le poivron, pratiquement tout ce qu'on mange sont des espèces végétales qui n'existaient pas dans notre pays. Donc elles ont été importées souvent soit des Indes au Moyen-Âge, soit après que lorsqu'on a découvert les États d'Amérique, de l'Amérique. La tomate, par exemple, la pomme de terre.
Voilà. La pomme de terre aussi.
Et oui, la pomme de terre aussi. Donc on a complètement changé la nature, nous aussi, récemment, depuis, disons, quelques siècles. Et puis on la change encore de plus en plus fortement maintenant, et dans les années à venir, avec les OGM, les organismes génétiquement modifiés, on va vraiment, vraiment changer beaucoup la nature. Donc on peut dire que depuis quelques temps, dans la nature se trouvent tous les produits que l'homme a fabriqués, se trouvent répandus dans les sols, dans l'air, dans l'eau, dans les plantes, et même dans nous-mêmes. De tous les produits que l'on fabrique et leurs résidus et ce qu'on appelle leurs métabolites que l'on rejette plus ou moins dans la nature, soit par l'eau du robinet, soit par les WC, soit par le lavabo qu'on nettoie, etc. Tout ça, finalement, arrive dans la nature, soit dans l'eau, soit dans l'air, soit dans les sols.
Oui, donc il y a un mélange intrinsèque qui se
fait. Voilà, donc toutes ces transformations font aujourd'hui que partie de la nature. Elles sont imbriquées dans la nature. Elles se répandent dans tous les sols, les végétaux, les animaux, et toutes ces espèces, qui, animales par exemple, qui meurent, vont être mangées par d'autres espèces, qui vont prendre les animaux, tout ça, ça va mourir, être recyclé par le sol, et on va finalement le retrouver partout, depuis l'équateur jusqu'au pôle Nord.
Oui, mais alors, qu'est-ce que c'est que la nature aujourd'hui ? De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons cette nature, puisqu'il n'y a plus de nature ?
Alors, c'est vrai, la nature de maintenant, on peut dire que, vu ce qu'on vient de dire, que ce n'est plus la nature de nos ancêtres. C'est plus la nature même qu'ont connu nos grands-parents, hein, mais encore moins ce qu'ont connu les Romains et les premiers hommes. Donc, on est dans une nature nouvelle, qui n'est plus la nature d'antan, et qui est un mélange entre une nature naturelle, de ce qui reste de nature naturelle, et de tout ce que nous, les hommes, y ont apporté, les résidus, etc. Donc on peut dire que c'est une nature, un mélange, et que dans cette nature contemporaine, on ne peut plus vraiment, vraiment retrouver une nature originelle, elle a quasiment disparu. On va trouver des endroits où la nature est presque encore naturelle, mais pas tout à fait. Même au pôle Nord, on trouve des résidus de l'industrie, hein, même des Romains. Hein. Et on va trouver, par contre, et puis d'un autre côté, on va trouver des endroits de nature extrêmement transformés par l'homme. Donc on a un degré de nature entre du très naturel, enfin du presque naturel encore, et du presque plus naturel, donc il y a un degré entre les deux.
Donc si je comprends bien, Daniel Petit, nous avons donc affaire à un monde d'une naturalité évolutive, où l'on ne peut plus reconnaître une nature sauvage à 100% qui serait bien séparée de l'homme, mais une infinité de degrés de nature entre du naturel presque pur et, si je puis dire, de l'artificiel encore un peu teinté de nature. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça. On est la nature maintenant. Alors on peut dire, peut-être que la nature, on nous l'a aussi enrichie. On a apporté des choses qui n'existaient pas avant. C'est une forme de voir aussi, sans être trop pessimiste, de dire que c'est la nature. Et puis tout ça, elle s'est enrichie avec nos fabrications à nous, humains.
Donc en somme, il n'y aurait pas qu'un seul chemin de la nature, comme le sous-entendait tout à l'heure Mireille dans sa chanson. La route en béton est elle-même un certain degré de nature. Vous nous dites donc que les chemins de la nature sont variés, du sentier à l'allée, de la départementale à la nationale.
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Ça fait 3 ans que j'ai planté cet arbre. Et j'ai beau l'arroser à longueur de journée, pousse encore moins vite que ma barbe. Pour faire un arbre, Dieu que c'est long pour faire un arbre. Dieu que c'est long pour faire un arbre. Dieu que c'est long
pour faire un arbre.
Mon Dieu que c'est long.
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier. Sur ce maudit potet, 10 ans j'ai travaillé. Je n'arrive pas à le faire avancer, ni encore moins à le faire reculer. Pour faire un arbre,
Dieu que c'est long.
Pour faire un arbre,
Dieu que c'est long.
Pour faire un arbre,
Dieu que c'est long.
Pour faire un arbre,
mon Dieu que c'est long.
Le bon Dieu s'énervait dans son atelier en regardant Adam marcher à 4 pattes.
en long d'une pipe, j'avais tout calculé. Oui, pour qu'il marche sur ses deux pieds. Pour faire un homme,
pour faire un homme, bon Dieu que c'est long.
Pour faire un homme,
pour faire un homme, bon Dieu que c'est long.
Pour faire un homme,
pour faire un homme, bon Dieu que c'est long.
Pour faire un homme,
bon Dieu que c'est long.
Le bon Dieu servait dans son atelier, en regardant le monde qu'il avait fabriqué. Ces gens se battent comme des chiffonniers, et je ne peux plus dormir en paix. Pour faire un monde,
pour faire un monde, bon Dieu que c'est long.
Pour faire un monde,
pour faire un monde, bon Dieu que c'est long.
Pour faire un monde,
pour faire un monde, bon Dieu que c'est long.
Pour faire un monde,
mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long. Pour faire un monde, mon Dieu que c'est long.
Ah, que c'est long de faire un monde! Bien d'accord, cher Hugo Frey. Mais du pain alors, vous n'y avez pas songé? Pour faire un pain, mais quelle traversée! Écoutez plutôt la grosse faim de Petit Bonhomme de Jean-François Dumont. C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a une maison. Dans la maison, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit. Dans le lit, il y a Petit Bonhomme, et dans Petit Bonhomme, il y a un ventre tout vide. Petit Bonhomme sort de son lit, de son pyjama, et enfin de sa chambre. Il rentre dans ses habits et descend à la cuisine. Il ouvre le placard, il est vide. L'armoire, elle est vide. La huche, elle est vide. Petit Bonhomme fonce à la boulangerie. « Boulanger, s'il te plaît, donne-moi du pain, parce que j'ai faim. »«
Oh, petit bonhomme, répond le boulanger, le pain, je ne le donne pas, je le vends. C'est comme cela que je gagne ma croûte. »
Petit bonhomme sort son porte-monnaie. Il est vide aussi. « Mais je n'ai pas de sous. »
« Ah bon, écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. »
Petit bonhomme court au moulin. Tout essoufflé, il dit « Meunier, donne-moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. »
« Eh, petit bonhomme, répond le meunier, ma farine, je ne la donne pas, je la vends, je ne moue pas pour rien. »«
Mais je n'ai pas de sous. »
« Ah, bon, écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi des grains de blé et je te donnerai de la farine. »
Petit bonhomme déboule à la ferme et finit par trouver le paysan. Il était juste entre son béret et ses bottes en caoutchouc. « Paysan, donne-moi des grains de blé que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. »
« Oh, petit bonhomme, répond le paysan, le blé, il ne tombe pas du ciel, il sort de terre, faut l'aider à pousser. » Pour ça, moi, j'ai besoin de crottin. Si tu me donnes du crottin, je te donnerai des grains de blé.
Là-haut, le soleil est à son zénith. Il rayonne. En bas, petit bonhomme fait son maximum. Direction, la pâture à toute allure. Quand petit bonhomme arrive, il trouve un percheron énorme, au derrière si gros qu'on le voit de devant. C'est la bonne adresse. « Cheval, donne-moi du crottin que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim.
« Je voudrais bien, moi, répond le cheval, mais je n'ai plus rien à manger, il fait trop sec, donne-moi de l'herbe bien verte et je te donnerai du crottin. »
Petit bonhomme cherche, mais partout l'herbe est sèche. Il se penche et parle à la terre. « Terre, donne-moi de l'herbe que je donnerai au cheval, qui me donnera du crottin, que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. Je voudrais bien, moi, mais je ne peux pas, murmure la terre. J'ai si soif. Donne-moi de l'eau, et je te donnerai de l'herbe. Petit bonhomme galope jusqu'à la rivière. Elle est en train de se la couler douce. Rivière, « je peux prendre de l'eau? C'est pour la terre, elle est toute sèche. »«
Ah ?
Oui, s'il te plaît, Donne-moi de l'eau que je donnerai à la terre, qui me donnera de l'herbe, que je donnerai au cheval, qui me donnera du crottin, que je donnerai au paysan, qui me donnera des grains de blé, que je donnerai au meunier, qui me donnera de la farine, que je donnerai au boulanger, qui me donnera du pain, parce que j'ai faim. Moi, je veux bien, mais tu vois, ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire mon lit. Tu peux t'en occuper ? Cela m'aiderait beaucoup. Petit bonhomme s'est mis tout de suite au travail. Il a réarrangé les galets, enlevé les branches d'arbres qui traînaient et nettoyé les bordures. La rivière est toute jolie et toute propre à présent. Ça fait plaisir, dit la rivière. Tu peux te servir maintenant. Merci. Mais que je suis sot. Je n'ai pas de seau. Pas grave, je prends mon chapeau. Petit bonhomme écope une grande chapeautée d'eau et la porte à la terre. Elle la boit en soupirant d'aise. Encore, s'il te plaît. Petit bonhomme court reprendre une deuxième chapeautée, puis une troisième, et enfin, la terre laisse échapper. Ah, ça va mieux. Aussitôt, pousse une belle herbe verte et juteuse. Petit bonhomme en coupe une bonne brassée. Merci, la terre. Petit bonhomme file comme le vent jusqu'à la pâture et dépose son tas d'herbes devant le cheval. Aussitôt, le cheval se met à manger. Broute, broute, mâche, mâche, broute, broute, mâche, mâche. Oh, ça vient. Petit bonhomme fait vite le tour du cheval et se retrouve devant le derrière au moment où la queue se soulève. Oh, toujours pas de saut. Tant pis pour le chapeau. Pof, 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 un beau crottin noir fumant et puant, si bon, tombe dans le chapeau. Merci cheval, crie petit bonhomme au cheval qui ne répond pas parce qu'il a la bouche pleine, évidemment. Petit bonhomme file comme une flèche chez le paysan. Il échange son chapeau de crottin contre un sac de grains de blé. Merci paysan. Il file comme une hirondelle sur la colline où il échange son sac de grains de blé contre un sac de farine. Merci meunier. Et enfin il file comme un éclair un peu fatigué chez le boulanger. En voyant la farine dans le sac, le boulanger bien content donne un gros pain rond à petit bonhomme qui voit enfin la fin de sa faim arriver. Merci boulanger. Petit bonhomme est rentré chez lui. Il s'est assis. Le pain, il l'a senti. Il a souri. Il en a mangé une partie. L'autre était pour les souris. C'était la nuit. Il est allé au lit et il a bien dormi. Et demain ? Demain deviendra bien assez vite aujourd'hui, alors à chaque jour sa peine, son pain et son plaisir. Et c'est ici que l'histoire se finit. Voilà, c'était La grosse faim de Petit Bonhomme de Jean-François Dumont, édition Didier Jeunesse. Du pain qui vient de la farine, qui vient des grains de blé, qui vient de la terre, qui vient du crottin de cheval, qui vient de l'herbe, qui vient de l'eau, qui vient de la rivière. Ouf, que de marches d'escalier dans la grande maisonnée de Dame Nature. En tout cas, moi, tant que mes tartines de pain du matin seront toujours pétries par les mains de mon boulanger préféré, avec des grains de blé semés et arrosés, je dis ouf. Parce que la grosse faim des petits bonhommes, c'est la nôtre aussi bien sûr, celle des biogéographes comme Daniel Petit, des techniciens du son comme Raphaël Terribilé, des monteurs son comme Silver Petit, et de moi-même, Donatienne Rank. Moi, ce sont les tartines de miel mes préférées. Et la grosse faim des petits bonhommes, c'est la vôtre aussi, chères oreilles buissonnières, qui avez bien besoin de belles tartines pour faire pousser encore plus vos oreilles curieuses et baroudeuses. Allez, portez-vous bien. Et je vous dis, promis, juré, craché, à bientôt.